France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse et nous sommes sept dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui, du beau pour les yeux et les oreilles, avec vous Isabelle et Marie.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour Bénédicte.
Et vos deux invités avec nous en studio, bonjour à tous. Odile Vibault nous propose des balades touristiques sans chichi. Et tout de suite, on commence avec vous Marie et votre invité Clément Debieuvre, chanteur lyrique.
Clément Debieuvre, bonjour.
Bonjour.
On vient d'écouter quelques secondes d'un morceau très célèbre, le prélude du Te Deum de Charpentier, qui pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils l'ont entendu mais ne savent plus, c'est l'Eurovision. Clément, vous êtes chanteur de musique baroque. Comment peut-on définir la musique baroque ?
Alors déjà, je pense que la musique baroque, c'est une époque, évidemment, parce qu'on la... Alors, la musique baroque, c'est une époque, mais en fait, le baroque, c'est...
C'est un courant artistique.
Oui, voilà, c'est un courant artistique. Et donc, du coup, la musique baroque, on va la définir comme quelque chose, pour moi, de flamboyant, comme on vient d'entendre exactement dans le Te Deum de Charpentier, qu'on connaît notamment pour l'ouverture de l'Eurovision.
Voilà.
Et du coup, cette pièce, c'est quand même assez extraordinaire parce que, en gros, on en fout plein la vue directement dès le début et ça va être comme ça pendant 20 minutes. Donc, c'est un peu du je suis à la cour de Louis XIV et en gros, il y a de l'or partout et des fontaines, des beaux jardins, etc. Voilà.
Voilà,
la musique baroque
dans le temps,
française, c'est un peu ça.
Ça commence là, Louis XIV.
Exactement. Exactement.
Et ça continue ?
Ben, ça va continuer, mais après, il y a d'autres courants artistiques qui vont arriver avec des découvertes de nouveaux instruments, comme on va passer du clavecin au pianoforte, etc. Et donc, du coup, il va y avoir des choses totalement différentes et des courants musicaux différents.
Et cette musique baroque, on la voit plutôt en France, en Italie ? Ou c'est dans ces deux pays-là uniquement, non ?
Non, c'est un peu partout. Alors, à ma connaissance, je connais la musique baroque italienne, française, allemande, mais aussi anglaise, très très connue, notamment avec Purcell. Donc, c'est un courant artistique qui a vraiment balayé tout le monde, si je puis dire. Après, je ne connais pas d'autres musiques baroques, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'influences dans la musique baroque française, des autres musiques, et notamment
italienne
oui. Allemande et anglaise.
Italienne parce que Jean-Baptiste Lully, qui a été le...
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui.
Qui a composé pour le roi.
Tout à fait. Jean-Baptiste Lully qui a composé beaucoup de choses pour la cour. Alors, il y a plusieurs types de compositions, on va dire, en baroque français, c'est-à-dire qu'on va avoir les opéras qui vont être créés pour une demande bien spécifique. Ça pouvait être la demande du Palais Royal à l'époque, avant la construction de Versailles. Après, c'était du coup pour l'Opéra Royal de Versailles.
Est-ce que ça a commencé là ? Ça a commencé, la musique baroque, elle a commencé avec une demande royale. Faite pour la haute aristocratie.
Je ne sais pas
pour
vraiment
leur divertissement
si...
à eux ou...
C'était évidemment un divertissement, mais pas que, puisqu'il y avait aussi la musique baroque sacrée.
Voilà.
Et donc la musique baroque sacrée, c'était des commandes qui étaient faites, exactement, pour des messes. Mmh. Pour des messes de couronnement, des messes tout simplement le dimanche. Voilà, c'était hyper varié.
Et oui, c'est hyper varié.
Chaque événement avait sa composition, en gros.
Et est-ce que dans la musique baroque, il y a un aspect aussi plus... calme, par opposition avec le flamboyant dont on a parlé tout de suite là, qui était fait pour mettre plein la vue. Il y a aussi de la musique baroque recueillie,
oui,
pas dans le sens sacré, mais voilà, comme de la musique de chambre, Pas fait pour Versailles et les fontaines, fait pour des plus petits lieux.
Tout à fait. Alors souvent la musique de chambre, on l'assimile quand même beaucoup à la musique sacrée parce que il y a des choses dans la musique sacrée qui ont été faites à plus petit effectif et il y a des choses qui ont été faites aussi beaucoup plus intimes comme par exemple des postiches ou alors des postiches donc en fait c'est des opéras où en fait on va se moquer un peu des gens.
Et des pastiches
pardon,
je vous en prie.
Et du coup donc on a les pastiches et puis après on va avoir aussi d'autres des airs de cour justement qui ont été faits exprès pour divertir les gens, mais dans des salons, dans des chambres, dans des choses comme ça. Donc oui, il y a beaucoup, une variété énorme de choses.
C'est presque un style multiple, presque paradoxal en fait.
Oui, il y a beaucoup de paradoxes parce que en fait, on va retrouver des choses hyper, hyper franches, hyper presque trop, comme exactement ce qu'on peut retrouver dans l'architecture baroque, où c'est vraiment du flamboyant, des volutes. Il y a des choses très 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 riches et d'un côté, on va se retrouver avec quelque chose de très frêle. De très intime et de très larmoyant aussi, de très recueilli, qui est de l'ordre de la prière. Enfin, c'est...
Et là-dedans, quel serait l'instrument emblématique, l'instrument de musique emblématique?
Bon, je pense que pour tout le monde, l'instrument emblématique de la musique baroque, c'est le clavecin.
Oui.
Parce qu'il y a quelque chose de...
Qu'on peut jouer aussi de manière très forte, comme de manière plus...
Oui, bien sûr. Après, je pense que les nuances sont beaucoup plus difficiles avec cet instrument, parce qu'il n'y a pas de jeu de pédales où on peut étouffer le son, etc. Donc c'est...
Oui, il est un peu direct.
C'est un peu direct, quoi.
Alors vous, qu'est-ce que vous préférez dans ce style musical ?
Alors moi, ce que je préfère, c'est déjà la variété, effectivement. Et puis, c'est de pouvoir passer d'un rôle d'opéra où on va devoir vraiment travailler un personnage à passer à de la musique sacrée où on va devoir jouer une prière ou quelque chose comme ça. Et puis, ce que j'aime vraiment, c'est aussi la tension qu'on peut ressentir dans la musique baroque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à cette époque-là où on ressent comme des frottements. Moi, j'appelle ça des frottements.
Ouais.
Et donc, en fait, c'est quelque chose qui va déranger.
Oh, d'accord.
C'est-à-dire qu'on va se dire, tout d'un coup... Ça m'étonne, ça me dérange, il y a quelque chose, je ressens des frissons, il y a quelque chose... Voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses un peu qui me dérangent autant dans l'art que dans d'autres domaines. Et j'avoue que la musique baroque, eh ben, on ressent des choses, quoi.
Clément Debieux, vous vivez à Angers depuis 3 ans,
oui.
Et la musique, ce n'est pas votre seule passion. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Quel est votre parcours?
Alors moi, j'ai un parcours assez atypique, on va dire, pour un musicien, même si quand même j'ai commencé par travailler la musique, on va dire, au collège, et ça m'a poursuivi au lycée. Et puis après, en fait, je suis rentrée dans des études de design mobilier, donc à Roubaix, dans une très grande école qui s'appelle l'École supérieure des arts appliqués et du textile. Et puis, il s'est avéré que j'ai postulé pour faire autre chose après, pour
toujours
prendre
dans le design.
Tout à fait, pour avoir un master en design. Et j'ai postulé pour une école de musique baroque, donc le Centre de musique baroque de Versailles. Et puis, en fait, j'ai été pris au Centre de musique baroque et j'ai été pris dans aucun des dizaines de candidatures d'écoles. J'ai postulé, ouais. Donc ça a été un peu un choix indirect, on va dire, et tant mieux, parce que
là,
entre deux passions, c'est quand même difficile de choisir.
Oui, et vous avez commencé jeune quand même, c'est-à-dire que vous étiez au collège, en classe, vous m'aviez raconté ça, vous êtes en classe CHAM.
Exactement.
Vous avez des classes CHAM, il y en a à Angers, au collège Chevreul, c'est des classes qui sont aménagées.
Oui, tout à fait, c'est aménagé pour la musique, donc généralement, je sais pas trop comment ça se passe maintenant, mais en tout cas, à mon époque, le matin, on suit des cours généraux, et puis l'après-midi, de certaines de certaines journées, on est au conservatoire et puis on suit nos cours d'instruments, nos cours de solfège, les cours, la chorale, la maîtrise, etc. Avec des projets qui se créent de musique de chambre comme de musique plus polyphonique, on va dire.
Quand même, il y a un lien avec tout ça, c'est que tout ça est très créatif. On peut dire que dans votre vie, c'est, voilà, entre ces deux choix, c'est des choix de quelqu'un qui s'intéresse à l'art en général.
Oui, oui, c'est vrai, oui, oui.
Vous n'avez pas de regrets par rapport au design ?
Non, parce qu'en fait, je veux dire, on est quand même entouré de, à l'heure actuelle, de choses qui peuvent nous rapprocher de ça. Et j'ai la chance de pouvoir aller souvent à Paris, d'aller voir des expositions. On a aussi, il faut dire, à Angers, des très belles expositions d'art.
Ouais, donc vous vivez toujours votre passion pour le design, finalement.
Oui, bien sûr, si ça ne me quitte jamais.
Alors, vous avez 31 ans. Ouais. Ça fait maintenant 8 ans que vous exercez. Et vous avez choisi, pour l'instant, en ce moment, de ne pas faire partie d'une formation. Vous n'êtes pas dans un orchestre.
Tout à fait.
Vous êtes intermittent du spectacle. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est d'être intermittent du spectacle ?
Alors, l'intermittence du spectacle, c'est quand même un statut assez exceptionnel qui n'existe qu'en France. C'est un statut qui fait partie de Pôle emploi, tout simplement, et qui va aider, du coup, les musiciens, mais aussi les techniciens, les danseurs, à pouvoir travailler, mais en même temps aussi se dire, je travaille, mais quand je travaille pas, j'ai quand même une rémunération minimum.
Donc c'est un statut qui n'est pas si facile que ça à avoir, il faut le dire, il faut travailler un certain nombre d'heures.
Voilà, il faut avoir 507 heures par an.
Voilà. C'est pas si facile.
C'est pas si facile, c'est pas facile non plus de le garder dans certaines circonstances. Ouais. Et puis c'est beaucoup de travail. Voilà, on travaille pas dans des horaires de bureau, donc on fait pas du 10h-18h.
Quelle est votre journée type, vous, une journée de chanteur?
C'est, c'est quoi? Quand je travaille, on va dire que soit je suis en répétition pour un projet, donc ça peut être de 10h à 18h, comme ça peut être de 15h à 23h, comme parfois en enregistrement, comme au mois de mars, j'ai enregistré le 4e volume des grands motets de Lully à la Chapelle Royale de Versailles. Et là, en fait, on enregistrait de nuit. Donc, c'est-à-dire qu'on commençait à 18h et puis on finissait à 1h, 2h du matin.
Donc, il n'y a pas de journée type, en fait.
Il n'y a pas de journée type.
Voilà. Il faut être en forme et c'est beaucoup, beaucoup de travail à certains moments et un peu moins sur d'autres.
Exactement. Et puis après, c'est du travail aussi personnel. C'est souvent ce que les gens ne voient pas.
Vous avez toujours un professeur, en fait.
J'ai toujours des professeurs, voilà.
Des professeurs.
Oui, tout à fait. Il y a des professeurs de chant. Et puis après, il y a des coachs aussi qui vont nous aider à pouvoir apprendre nos rôles, que ce soit dans la musique baroque ou dans la musique romantique, classique, etc.
Bon, rien de tel que le spectacle vivant. Où est-ce qu'on peut entendre du baroque, là, à Angers? Puisque vous aimez aussi Angers, vous sortez beaucoup à Angers.
Oui, bonne question. Où est-ce qu'on peut entendre de la musique baroque à Angers?
On entend beaucoup de choses à Angers, le baroque un peu moins, mais quand même, on sort un peu d'Angers.
C'est vrai, on sort un peu d'Angers. Je pense que, notamment, quelque chose d'hyper connu, c'est le Festival de Sablé qui se déroule fin août. Alors ça, le Festival de Sablé, c'est pas les Arts Florissants. C'est Festival de Tiré aussi qui sera fin août. Donc dirigé par William Christie et Paul Agnew, dans les jardins du coup de la résidence de William Christie. Donc ça se situe fin août et c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se passent, autant de la grosse musique que de la petite musique, dans des jardins, dans des salles, dans des églises. Voilà, c'est un festival assez festif, comme on peut dire.
Alors ceux qui veulent vous entendre, il faut pas hésiter à aller sur votre site internet clementdebieuf.com, sur votre compte IG ou Instagram ou votre compte Facebook, toujours Clément Debieuvre. Là, on va... merci, parce qu'on va vous écouter maintenant. Merci de nous avoir fait découvrir votre métier. On va vous écouter. Présentez-nous le morceau.
Alors, le morceau, il fait partie d'un CD qui vient de sortir, dont je suis assez fière. C'est une amie, donc Lucille Tessier, qui a un ensemble, l'ensemble Léviathan. Et donc, elle m'a proposé d'enregistrer chez Harmonia Mundi des extraits d'Atis. Donc, Atis qui a été créé par Lully, c'est une tragédie en 5 actes. Et donc là, on va entendre la scène de folie. En fait, Atis va se réveiller et
merci.
Ne va pas
on
trop...
Va écoutez,
pardon.
Hop, attends, on lance. Non, c'est bien, merci beaucoup Clément. Tous mes sens sont troublés, je frémis, je frissonne, je tremble et tout à coup, une infernale ardeur vient enflammer mon sang et dévorer mon cœur. Ciel, que vois-je? Le ciel s'arme.
contourne la terre. Quel désordre, quel bruit, quel éclat de tonnerre, quels abîmes profonds se dépassent en hiver, que de fantômes vins sont sortis des enfers.
Alors on va malheureusement devoir arrêter d'écouter ce magnifique chant. Vous êtes toujours sur Radio Campus avec votre émission Franche Culture. Isabelle, aujourd'hui, vous êtes d'humeur baladeuse.
Et oui, ce beau temps me donne des envies d'extérieur. Et pourquoi ne pas visiter ou revisiter Angers avec une guide qui nous propose des visites guidées mais pas guindées. Bienvenue à Odile Vibault, guide conférencière indépendante et passeuse d'histoire et à ses bulles de culture. Odile Vibault, bonjour.
Bonsoir.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est qu'une bulle de culture ?
Eh bien, ce sont effectivement des visites guidées thématiques. Donc, régulièrement, je change de thématique et mon objectif est à la fois de faire découvrir la ville aux touristes, aux gens de passage, mais également aux habitants de Angers. C'est d'ailleurs en voyant la grande mobilisation chaque année pour les journées du patrimoine que j'ai eu l'idée de lancer mes visites.
Et il semblerait que vous avez un côté interdisciplinaire.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup, donc j'apprécie beaucoup de prendre la suite
de Clément.
J'aime énormément les arts, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture. Et donc, c'est tout ça que j'ai envie de mettre en valeur au cours de mes visites. J'aime également la littérature, donc je ne m'interdis pas non plus de la faire intervenir. Et c'est pourquoi j'ai appelé mes visites effectivement les bulles de culture, pour ce côté jaillissant un peu dans toutes les directions.
Et ce sont des bulles de culture avec différents formats, je crois.
Oui, alors je propose effectivement plusieurs formats, le petit, le moyen, le grand. C'est un petit peu comme les pizzas, il y en a pour toutes les fins et pour tous les budgets aussi. Les bulles méridiennes sont les plus courtes, 20 minutes à l'heure du déjeuner. On se retrouve devant un bâtiment dont je présente l'histoire, ou bien Le vendredi à 18h, je propose entre 45 minutes et 1 heure de visite. Et ensuite, pour les gens qui sont d'accord, eh bien de venir partager un verre. Et ça crée ainsi un moment de convivialité. Et puis enfin, pour les passionnés de patrimoine pur et dur, eh bien 1h30 le dimanche matin à 11h quand la ville est à nous.
Et ce n'est pas un pensum. Loin de là. Alors ce mois-ci, vous nous faites découvrir l'Angers Art Nouveau et Belle Époque. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous définir les notions d'Art Nouveau et de Belle Époque ?
Alors la Belle Époque, c'est plus large. Ça a duré plus longtemps que l'Art Nouveau et fort heureusement parce que c'est une période de paix. Ces 4 décennies de paix entre la guerre de 1870 contre la Prusse et la Première Guerre mondiale. Mais c'est après coup seulement que le terme de belle époque a été inventé un petit peu avec une pointe de nostalgie. Et par contre, pour ce qui est de l'art nouveau, il a émergé autour des années 1900, un art qui est tout en rondeur, en ondulation, et qui va apporter comme nouveauté, comme son nom l'indique, eh bien, beaucoup de souplesse par rapport à la rigueur des lignes des bâtiments haussmanniens.
Donc, Belle Époque rime avec bâtiments haussmanniens. Et Art Déco dans tout ça, alors ?
Ah, l'Art Déco viendra après la Première Guerre, parce que justement, la Première Guerre mondiale va mettre un terme assez rapidement à ce mouvement d'art nouveau. Et comme il a duré très peu de temps, on a aussi beaucoup moins de bâtiments construits avec ce type d'architecture. Et il avait également un côté très, très riche, très opulent, qui du coup va être considéré comme un peu indécent après le traumatisme de la guerre. Et après la guerre, on va revenir en fait à quelque chose de très ligné, de très organisé, avec beaucoup de figures géométriques. Et l'art déco, eh bien, s'inspire énormément des motifs géométriques.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un bâtiment d'Angers Art Nouveau et puis ensuite un bâtiment d'Angers Belle Époque?
Alors, eh bien, le bâtiment emblématique de l'Art Nouveau à Angers, c'est ce qui s'appelle maintenant le Boléro, qui est à la fois... c'est un bâtiment super parce que en fait on a une adéquation complète entre l'architecture et puis ce qu'était et ce qu'est toujours d'ailleurs ce bâtiment. C'est maintenant une boîte de nuit, un club privé, mais ça a toujours été un lieu de divertissement. Et il a été construit pour être un lieu de divertissement et de plaisir, où d'ailleurs les Angevins venaient un petit peu s'encanailler. Et donc l'architecture Art Nouveau, qui était un peu anticonformiste, eh bien collait exactement à la vocation de ce lieu de plaisir, où qui avait une telle réputation que des artistes venaient de Paris, et notamment une certaine Nini Patenlair, qui arrivait du Moulin Rouge et qui avait sa sœur qui était blanchisseuse sur les bateaux lavoir en bord de Maine.
Et alors, plus sérieusement, vous allez aussi nous faire découvrir les Galeries Lafayette Belle Époque.
Eh oui, exactement. Le Grand Théâtre de Angers est également fait partie de cette Belle Époque, puisqu'il a été inauguré juste au lendemain de la guerre de 1870. Et puis, il a donné le coup d'envoi à la construction de la place du ralliement. Et donc, parmi les bâtiments emblématiques, effectivement, ce qui sont maintenant les Galeries Lafayette et qui étaient autrefois le Grand Hôtel, parce qu'on a le Grand Théâtre, alors à côté, on avait le Grand Hôtel sur la grande place de Angers. Et une des caractéristiques du style haussmannien, c'est d'une part l'alignement des façades et également ces balcons que l'on appelle filants parce qu'ils font toute la longueur d'une façade, et ça donne du coup une grande harmonie à l'ensemble de la place, même si quand vous regardez d'un côté à l'autre, ce sont des architectes différents, donc des styles légèrement différents, mais on a une harmonie de matière puisque toutes les façades sont de tuffeaux, et également cette harmonie avec les lignes des balcons filant au premier et au troisième étage, et entre deux, des balcons individuels pour les baies, qui rythment un petit peu les façades, en laissant quand même la primeur de la déco au Grand Théâtre.
Donc, si j'ai bien compris, vous nous dites que le bâtiment des Galeries Lafayette était auparavant un hôtel.
Oui, oui, tout à fait.
Jusqu'à quand, vous savez ?
Eh bien, jusque après la Première Guerre mondiale, en fait. Après la Première Guerre mondiale, le Grand Hôtel a fait faillite et c'est à ce moment-là qu'il a été repris par les Nouvelles Galeries. À l'époque, ça n'était pas les Galeries Lafayette, c'était les Nouvelles Galeries qui avaient déjà fait construire à l'arrière du bâtiment leur propre bâtiment en U, parce qu'il fallait préserver un petit jardin privé qui se trouvait à l'arrière de l'hôtel. Et lorsque les galeries ont repris l'ensemble du Grand Hôtel, ils ont eu l'idée géniale de couvrir le jardin avec une verrière. Cette fois-ci, après la Première Guerre, on était passé à l'art déco. Et donc, notre verrière des Galeries Lafayette est effectivement art déco, puisque c'est l'emplacement des anciens jardins de l'hôtel.
Alors, je sais que vous avez un programme particulier prévu pour cet été. Alors, lequel ?
Eh bien, cet été, je vous propose d'aller à la découverte des, je l'ai appelé angevins, angevines. Il s'agit en fait des portraits à la fois de bois ou de pierre qui se trouvent sur les façades. Et donc, ça permet une déambulation dans les différents quartiers de Angers, rive gauche et rive droite, et une autre façon de découvrir la ville, mais toujours en levant les yeux.
Alors malheureusement, la maison d'Adam est en travaux, donc ça va manquer à la visite, j'imagine.
Eh bien justement, c'est l'occasion de mettre en valeur les itinéraires bis.
Et donc vous allez nous faire découvrir des lieux plus confidentiels ?
Eh bien, je vais conjuguer dans mes visites à la fois des lieux très connus, parce que c'est important aussi pour les touristes qui découvrent Angers. Il y a des lieux incontournables. Et puis également, quelques petites pépites un petit peu plus cachées, mais je vous en laisse la surprise.
Et comment est-ce que vous préparez vos visites? Est-ce que ça dépend de votre public ou...
Ça dépend surtout de mon humeur. Non, un peu de mon humeur, un petit peu des saisons également. Il y a des saisons plus propices que d'autres, suivant qu'il y a des feuilles aux arbres. Ça cache un petit peu les monuments. Et puis, j'essaye d'être en correspondance avec les expositions. Cet hiver, j'ai fait la rue Le Neveu parce qu'il y avait l'exposition au musée des Beaux-Arts. Voilà. Et donc, à l'automne, je ferai sûrement justement sur l'art déco... Et je prendrai la suite de mes collègues du service du patrimoine, puisqu'il va y avoir aux rues, au repère urbain, une exposition justement sur les mosaïques d'Odorico.
Très bien. Et alors, comment fait-on pour réserver et quels sont vos tarifs?
Alors, il faut toujours réserver parce que forcément, je me déplace s'il y a du monde. Et donc... On peut me retrouver sur ma page Facebook qui s'appelle Les Bulles de Culture de la Guide Odile, mon Instagram Les Bulles Odile, et puis mes tarifs, eh bien, c'est 5 euros pour la visite du midi, 10 euros pour les bulles apéritives et 20 euros pour les bulles matinales le dimanche matin.
Odile Vibeau, merci.
Merci, merci. Une petite virgule. L'équipe de Franche Culture vous recommande vraiment l'excellent festival de Saint-Florent-Vieille, Rivage des Voix, du Sistrilandais à la guitare portugaise, de Purcell à Jenkins. On voyage ou on plane, c'est selon. Et ça, c'est du 1er au 4 juin. Merci à nos invités du jour, Odile et Clément, à Marie, Isabelle et puis à Émilie pour la technique. C'est donc la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.